Bon, on a eu un bon temps dans la louange ce matin, et puis, comme la parole de Dieu nous dit, on va de gloire en gloire. Alors, le Seigneur veut nous bénir ce matin parce que sa présence est au milieu de nous. Il nous a précédés ici ce matin. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient à l'invitation qu'il nous a donnée. Alors, si vous avez vos cœurs qui sont ouverts à recevoir la parole de Dieu, pas recevoir une personne, mais recevoir la parole de Dieu, vous allez en retirer sûrement quelque chose de bien pour chacun de vous. Le Seigneur est présent ici ce matin, puis son désir, comme toujours, parce qu'il n'a pas changé, il ne change pas, gloire à Dieu. Moi, je suis contente qu'il ne change pas. Alors, il veut faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était sur la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades, il prêchait la parole, il enseignait la bonne nouvelle du royaume. Alors, le Seigneur n'a pas changé, il va faire la même chose. Alors, si vous êtes venus avec des besoins sûrement, parce que ce n'est pas pour rien qu'on vient à l'Église, on vient, oui, pour louer le Seigneur, on vient pour entendre la parole, mais on vient aussi parce qu'on a des besoins qui ne sont pas comblés. Alors, le Seigneur est ici ce matin pour rencontrer vos besoins. Tout ce qu'il cherche, c'est des cœurs réceptifs. Alors, attendez-vous sur lui ce matin, attendez-vous qu'il va rencontrer vos besoins ce matin. Alors, en tant que chrétien, combien de nous aimons être agréables à Dieu? Je veux dire, pour le vrai, on désire vraiment être agréable à Dieu. Ben, je dirais qu'on a la moitié ce matin des gens qui veulent être agréables à Dieu. C'est bon! Le Seigneur dit qu'on ne dédaigne pas les petits commencements. Le reste de vous, vous allez embarquer avec la suite de ça. Alors, si on désire vraiment être agréable à Dieu, parce que c'est le désir de Dieu aussi, c'est sa volonté. Des fois, on dit, oh, qu'est-ce que je pourrais donc faire pour faire plaisir au Seigneur? On veut tellement lui faire plaisir parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux, il nous a donné son Fils. Alors, c'est normal qu'en retour, on veut faire quelque chose pour lui, on veut être agréable à lui. On dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être agréable à Dieu? Mais vous savez, une chose que ça prend pour lui être agréable, c'est la foi. Exactement. Donc, c'est le thème de ce matin. Ce n'est pas un paquet d'œuvres, ce n'est pas un paquet de choses que le Seigneur veut, mais il veut que nous ayons la foi. Alors, on va voir ce matin, justement, le thème de la foi. On va voir comment obtenir la foi et comment l'exercer. Parce que c'est une chose de savoir que la foi, on peut en effet l'avoir, mais comment on exerce ça, la foi? On va voir que ça prend de la préparation. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessous comme ça. C'est rare les bonnes choses qui font juste nous arriver. Ça peut arriver parce que les gens dans le monde, bon, c'est par hasard. Des fois, ils vont prendre un billet. Puis c'est vraiment du hasard, c'est de la chance. Ils vont gagner une loterie. Mais quand on parle des principes de la vie, on parle des choses de la vie courante, c'est rare que les choses nous tombent dessus comme ça sans préparation. Si on pense à un athlète, premièrement, il se prépare. Il y a un combat, il y a un but, il y a une médaille là qu'il va aller chercher, une médaille d'or. Il veut pas la bronze, puis probablement pas l'argent, mais il mise tout de suite pour le meilleur, il veut l'or. Alors, il y a de la préparation. Il va suivre un régime, il va aller s'entraîner, il va marcher, il va courir des kilomètres. Il va faire tout le nécessaire, même des fois qu'il va être obligé de délaisser ses amis pour un temps, pour vraiment s'isoler, vraiment concentrer, vraiment se préparer pour gagner la course, parce qu'au départ, lui, dans sa tête, il a déjà gagné. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il se prépare, mais la médaille lui appartient. Il ne part pas avec « Oh, m'as-tu la ramené? M'as-tu gagné? » Non, non, je suis gagnant. Je vais ramener l'or. Alors, il part avec cette disposition-là, il part avec cet entrain-là, mais il y a de la préparation. Et c'est la même chose pour nous. On veut avoir la foi. Et on sait que la foi, c'est quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose de nécessaire, surtout de nos jours, lorsqu'on vit dans des temps ténébreux, dans des moments où il n'y a tellement rien de certain. On ne peut pas prendre les choses pour acquises. Le travail, bon, aujourd'hui on travaille, la semaine prochaine la clé peut être dans la porte. Plein de choses comme ça. On est vraiment dans l'incertitude. On voit les gens sont perplexes, les gens sont nerveux, sont anxieux, ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que le Seigneur nous réserve le meilleur. Il nous réserve sa paix, il nous réserve sa joie, sa prospérité. Mais il y a quand même des principes pour aller chercher ces choses-là. Et un de ces principes-là, c'est la foi. Donc, la foi, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreux. Hébreux au chapitre 11 et le verset 6. On parlait au début de comment être agréable à Dieu. Alors, on va voir que l'ingrédient nécessaire que ça nous prend pour lui être agréable. Donc, Hébreux, au chapitre 11, et le verset 6, nous lisons, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, on voit clairement que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça prend absolument la foi. Si on veut être agréable à Dieu, puis on a vu des gens ce matin vouloir être agréable à Dieu, donc ça prend la foi. Alors, on va regarder un petit peu de plus près qu'est-ce que c'est la foi. On entend souvent, j'ai entendu souvent les gens dire que ça prend une foi aveugle. Combien de vous avez entendu ça, cette expression-là? Ah, oh, ça prend, faut juste que tu aies une foi aveugle. Mais selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, la foi n'est pas aveugle. Comment est-ce que nous-mêmes, comme enfants de Dieu, qu'on fait partie du royaume, on est devenus enfants de Dieu, mais comment est-ce que ça s'est fait, ça? Est-ce qu'on exerçait une foi aveugle? Absolument pas. On exerçait la foi en Jésus. Pourquoi qu'on a pu faire ça? Parce qu'on a entendu parler de son amour, de sa bonté, de ce que fait la croix pour nous. On a entendu parler que Dieu a donné son Fils unique. Il l'a livré pour nous. Il est mort au calvaire. Il a versé son sang. Il a été mis dans le tombeau, puis après 3 jours, il est ressuscité. On a entendu parler qu'il est au ciel maintenant. Il plaide notre cause. Il prie pour nous. Puis on sait qu'un jour, il va venir nous chercher. Donc, c'est tout sauf une foi aveugle. On a la foi qui est basée sur quelque chose. On est basé sur l'amour de Dieu. On est basé sur les principes. On est basé sur la personne même, fondée sur la personne même de Jésus. Alors, la foi, c'est une confiance. C'est d'avoir vraiment confiance en quelqu'un, en quelque chose, dans un principe. On a une confiance forte. On est persuadé. C'est pas juste une petite conviction, là. C'est comme, oh ouais, je pense que j'ai la foi. Non, on est convaincu, on est persuadé de la chose qu'on va dire. Même on va voir nos politiciens. Ils vont nous livrer un débat, ils vont nous livrer leur speech qu'ils appellent juste avant les élections, puis ils font des promesses, ça n'a plus de bon sens, ils vont changer le monde, là. Mais ils allent avec tellement de conviction qu'on les met au pouvoir, quand même. C'est vrai, ils sont persuadés. Si on veut être persuasif, il faut être persuadé soi-même du message. Alors, ça, la foi, c'est vraiment une confiance. C'est d'être persuadé, c'est d'avoir une forte conviction. Et Romains 14, 23 nous en parle de cela. Peut-être que je ne vous inviterai pas à tourner à tous les passages. Quand je vais vouloir, je vais vous indiquer qu'on va tourner. Mais je vais le citer, celui-ci. C'est dans Romains, si vous prenez des notes. Romains 14, le verset 23 nous dit que « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. » Pourquoi c'est condamné? Juste sur un aliment. C'est fort, ça, là. Il est condamné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'agit pas par conviction. Alors, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, imaginons que juste pour un aliment, si on va prendre un aliment, si on n'est pas certain, on n'agit pas par une vraie conviction, la parole de Dieu nous dit qu'on pêche. Alors, voyez-vous l'importance d'être vraiment persuadé de ce qu'on fait, d'avoir une confiance, d'avoir une conviction que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, les paroles que je dis, les choses que je fais, si je ne le fais pas avec une forte conviction, je pêche. Alors, on va voir aussi comment obtenir la foi. Parce que, mais là, vous allez dire, écoute, on est des enfants de Dieu. Oui, on a la foi. Oui, Dieu a donné à tous une mesure de foi. C'est vrai. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné une mesure de foi. Mais comment obtenir vraiment cette mesure de foi-là? Comment la développer? Parce que c'est le sujet de ce matin. On veut exercer la foi qu'on a. Parce que ça ne donne rien d'avoir une foi qui va rester toujours au même niveau. On ne veut pas une petite foi qui est stagnante, là, puis qui se contente. C'est comme nos enfants. Si on se rend compte qu'à un moment donné, notre enfant, à l'âge d'un an, il porte encore des vêtements 6 mois, je ne sais pas, on va aller voir le médecin et on va dire quelque chose qui ne marche pas, là, il est toujours dans le même pyjama. Soit que le pyjama, il allonge, ou bien non, le petit, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas en quelque part. Fait qu'on va aller consulter. C'est normal qu'à un an, il va habiller au moins un an, même il y en a des fois qui habillent 18 mois, 2 ans à un an. Alors, notre foi, c'est la même chose. Si on se rend compte d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un an à l'autre, qu'on a toujours le même niveau de foi, c'est quelque chose qui ne marche pas. On n'a pas compris le principe ou on n'est pas après l'exercer, la foi. Alors, on va voir qu'il y a des principes. Comment obtenir la foi? Il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Il faut qu'on renouvelle nos émotions et nos sentiments. Pourquoi ça demande un renouvellement de nos sentiments, de notre intelligence? Mais parce que la foi va à l'encontre de ça. C'est vrai, hein? La vraie foi va aller encore dans mon raisonnement. Mon raisonnement me dit, ça se peut pas. Mon raisonnement me dit, c'est pas pour moi. Mon corps me crie, t'es pas guéri, il fait mal, j'ai mal partout. Alors, il faut renouveler notre intelligence, le siège de nos émotions, nos sentiments même, pour avoir cet ingrédient qui s'appelle la foi. Et Romains 12, vous pourrez regarder avec moi l'importance de vraiment renouveler notre intelligence. Sans renouvellement d'intelligence, c'est impossible d'appliquer la foi. Alors, Romains 12, le chapitre 12, le verset 2, je vais vous laisser juste un petit instant pour vous trouver là, pour qu'on puisse être tous à la même place, à la page. Romains 12, le verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Qu'est-ce qui fait le siècle présent? Il pense, il goûte, il touche, il réfléchit. On marche dans les cinq sens. Si on n'a pas vu, c'est toujours la foi de Thomas. Ce siècle ici, c'est la foi de Thomas. À moins que je ne touche, je ne croirai pas. À moins que je voie de mes yeux, à moins que je goûte, à moins que j'aie une expérience, je ne croirai pas. Alors la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Et il y a une raison à cela, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on revient au début à être agréable à Dieu, ça prend un discernement de sa volonté. C'est impossible de savoir la volonté de Dieu sans un discernement, et c'est impossible d'avoir ce discernement-là sans avoir renouvelé notre intelligence. Donc, si on veut savoir la parfaite volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait, on doit absolument renouveler notre intelligence. Ça demande aussi une transformation du cœur, pas juste au niveau de l'intelligence, mais une transformation vraiment au niveau de notre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Une autre version nous dit le juste vivra par sa foi. Alors, je ne peux pas exercer la foi pour vous. Vous ne pouvez pas l'exercer pour moi. On peut prier les uns pour les autres. On peut partager nos requêtes de prière, nos fardeaux, les choses qui nous concernent, les choses pour le moment. Mais quand ça vient à la foi, je ne peux pas exercer la foi pour vous. Et vice-versa. Je ne peux pas exercer la foi pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, la foi, et c'est quelque chose qui est à la fois physique aussi. Parce que c'est marqué clairement, le juste vivra par sa foi. Alors, si on veut vivre en bonne santé, il faut exercer la foi. Il faut se servir aussi de notre intelligence, il faut se servir de toutes les facultés que Dieu nous a données. Il faut qu'on mange adéquatement, il faut qu'on ait le repos nécessaire, il faut qu'on s'exerce. Parce que se passer de confesseur, je suis en santé, le Seigneur, bon, il m'a guéri par ses meurtrissures. Mais si on va à l'encontre de ce principe-là, avec notre corps, on ne restera pas en santé. Donc, ça prend la foi et ça prend le renouvellement de l'intelligence et du cœur aussi. On disait que la foi, c'est quelque chose de personnel et c'est quelque chose de physique aussi. On sait que Dieu délivre toujours à travers le jugement. On se souvient des Israélites quand ils ont été délivrés de la main du Pharaon. Comment est-ce qu'il a fait piégeant pour les garder les Hébreux dans l'esclavage. Ils se bâtissaient un empire à leur dépens. Et puis ils faisaient travailler, puis quand c'était passé, ils mettaient les fardeaux davantage. Et c'était comme ça, ils ne voyaient pas la possibilité, ces gens-là, d'être délivrés. On se souvient quand ils ont traversé la mer Rouge aussi, quand Moïse, il a tout simplement, imaginons, que juste simplement, il tend une verge, un bâton, au-dessus de la mer Rouge. Pourquoi est-ce que les Israélites ont goûté, ils ont connu la délivrance? Parce qu'ils sont plus fins que nous. Parce qu'ils étaient plus spirituels que nous. Parce que le Seigneur les aimait plus que nous. Non, pas du tout. La raison qu'ils ont été délivrés de la main du Pharaon, la raison qu'ils ont traversé la mer Rouge à sec, c'est parce qu'ils ont utilisé leur foi pour échapper au jugement. Il aurait pu arriver là et dire, ben voyons, un simple bâton. Le Seigneur me dit d'étendre ça sur l'eau, là. Voyons, il va bien s'en produire quelque chose avec un bâton. S'il avait commencé à raisonner, s'il avait embarqué dans son raisonnement, dans ses sentiments, dans ses émotions, parce qu'il faut s'imaginer que ces gens-là, ils en avaient vécu, là, en Égypte, là. Ils étaient énervés, ils étaient sous beaucoup de pression. Ils devaient être fatigués, ils avaient vécu beaucoup de pression. S'il avait arrivé là et dit, bon, là, on est délivré de la main du Pharaon. On est délivré de tout ça, mais là, on est face à la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur a dit, tends ta verge. Puis sous cette orbe-là, puis sur l'obéissance de Moïse. Parce que c'est pas suffisant que Dieu nous dise quelque chose. Il nous dit le principe à faire. Il nous dit d'exercer notre foi. Mais si on ne l'utilise pas, on n'aura toujours pas les résultats. Parce que si Moïse avait resté là au bord de la mer Rouge puis avait regardé l'étendue de l'eau à perte de vue, il aurait resté là. Il a agi. Il a utilisé sa foi puis ont échappé au jugement. Donc, on pourrait dire que la foi, c'est une façon de vivre. C'est pas quelque chose qui est spasmatique. Oh, aujourd'hui, je suis rempli de foi. Demain matin, on verra. C'est une vraiment une façon de vivre. De vivre par la foi, c'est une façon. Ça devrait nous être quelque chose qui est commun à chacun de nous. Ça devrait être quelque chose qui est naturellement qu'on le fait. On va dire que c'est naturel, mais c'est à la fois surnaturel. Mais ça fait partie de notre nature. Parce que Jésus nous a donné sa nature. Alors, nous sommes capables d'exercer la foi, la mesure de foi qu'il a déposée en nous. Alors, c'est une façon de vivre, c'est un style de vie. C'est quelque chose qu'on fait de façon quotidienne, c'est d'exercer la foi. Mais là, comment est-ce qu'elle agit, la foi? Parce qu'on a vu l'importance de la foi. On a vu que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. On voit, on comprend que c'est important de l'exercer, la mesure qui est là, parce qu'on veut la développer. On veut qu'on ait une foi qui est de plus en plus grandissante. Mais comment est-ce qu'elle agit, cette foi-là? Romains 10, 17 nous dit que « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, on se rappelle, les multitudes qui venaient à Jésus, ce n'était pas tous des gens qui l'avaient connu personnellement. Les foules accouraient à lui. Puis je lisais justement l'autre jour dans les Évangiles qu'il y a quelqu'un qui avait reconnu le Seigneur Jésus puis a fait le village au complet pour aller dire « Hey, arrivez, Jésus est ici! » Pourquoi est-ce que ces gens-là faisaient ça? Ils avaient entendu parler de quoi? Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu parler que Jésus fait des miracles, qu'il guérit les malades, il rouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les boiteux, il fait entendre les sourds. On sait que Jésus prêchait puis il enseignait la parole. Alors la foi se bâtissait sur ce qu'il avait entendu. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors ça nous prend une foi qui est agissante, une foi qui est continuelle, toujours agissante. C'est cette sorte de foi-là qui influence les autres. Non seulement notre foi va nous bénéficier à nous, mais elle va bénéficier aux autres. Parce qu'on va influencer les autres. Si on est des personnes de foi, tôt ou tard, ceux qui en ont pas ou qui en ont moins, ils vont prendre exemple. Ils vont dire, mais à chaque fois que je parle avec cette personne-là, ma foi est rehaussée. À chaque fois que j'ai un découragement, la personne ne s'apitoie pas sur mon sort, mais on me donne un verset, on me donne de l'espoir. C'est comme ça stimule la foi qui est déjà en dedans de moi. Alors, une foi qui est vraiment agissante, elle va influencer les autres. Et la foi, c'est quelque chose qui agit aussi. Mais elle agit par répétition. Vous savez, cette façon-là de penser que c'est une baguette magique, on va citer une fois un verset de la parole, puis on pense qu'il va tout de suite être agissant en nous. Non. La foi vient par répétition. C'est pas la première fois que vous allez dire nécessairement, « Ah, c'est par les meurtrissures duquel j'ai été guéri » que vous allez forcément ressentir la guérison dans votre corps physique. C'est par répétition. C'est à force de lire la parole de Dieu, à force de méditer la parole de Dieu, à force de la confesser, elle va partir dans notre intellect qui dit c'est impossible, ça se peut pas. Puis là, on regarde, puis on se demande toujours si on a encore les symptômes, on voit encore les petits coups rouges, on voit encore, on se dit, ça marche pas, ça. OK, je vais recommencer. C'est à force de répétition. Ça part de la tête, puis ça descend dans le cœur. Parce que c'est là que le Seigneur nous parle. Ça part de notre tête. Il ne résonne pas avec nous parce que Dieu est esprit. Il n'est pas corps, puis il n'est pas âme. Alors, si on veut rejoindre le domaine surnaturel, on veut rejoindre Dieu, puis on veut qu'il nous rejoigne aussi, c'est dans le domaine spirituel, c'est par notre esprit. Alors, ça prend la répétition, ça prend la constance. On parlait de l'athlète tantôt. Si ça va faire 3 heures de workout, puis de la semaine d'après, je suis toute endolorie, j'ai les muscles, oh, ça fait mal partout. Je pense que je vais prendre un break d'un mois. Mais quand il a fini son fameux break, il faut qu'il recommence au début. Là, il va s'entraîner encore 3 heures, il va être encore sensible. Non, il faut qu'il persévère. Ça lui prend de la constance. C'est pas de dire, ben là, ça j'ai mal au muscle quand je vais arrêter. Non, non, il va continuer. D'un coup, il voit grossir, il voit qu'il y a plus d'entraînement, il y a plus de capacité, il y a plus de performance. Au lieu d'être capable de courir 5 kilomètres, il va être capable d'en courir 15 dans quelques mois. Alors, on voit la répétition, on voit la constance. Dans les principes, c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas de la magie. Il y a des principes. Puis si on n'adhère pas aux principes, on n'aura pas le résultat voulu. Alors, c'est par répétition, c'est par constance. Ça prend une résolution aussi. Vous savez, les fameuses résolutions qu'on fait dans le temps des fêtes, hein, premier, le jour de l'an. Ah, oh, là, c'est les régimes, c'est là, je mange plus de chocolat, puis pour un autre, fait plus ci, puis pour l'autre, fait plus ça. Des fois, après deux semaines, c'est comme, on a tout oublié, résolution. Puis on retourne dans nos mauvaises habitudes, puis on repart. Pourtant, on avait une bonne attitude au départ, on voulait, mais nous, il a manqué quoi? Il a manqué de la persistance, de la constance dans le principe de la résolution. La résolution en soi est bonne, mais c'est pas ça qui va faire le travail. C'est pas la résolution qui va nous donner les résultats. Ça prend la résolution, mais après ça, je vais y mettre du mien. Je vais me préparer, je vais aller vers le but. Si j'ai dit, je vais faire telle et telle chose, je vais le faire. Et puis là, je peux m'attendre à des résultats. Donc, c'est la répétition, la constance qui va nous apporter les résultats qu'on a besoin. On a dit tout à l'heure que la foi, c'est quelque chose de personnel. Isaïe 53 nous en parle un peu, nous dit, qui a cru? Il pose la question, qui? Qui a cru? Alors, voyez-vous à quel point que la foi, c'est personnel. Je ne peux pas l'exercer pour un autre. Même Jésus ne pouvait pas exercer la foi. Il avait l'Esprit sans mesure. Il était loin du Saint-Esprit pour apporter la guérison aux gens, pour apporter la délivrance. Puis il est le même aujourd'hui. Il est ici, puis son onction est présente ce matin. Ben, pas ici juste pour briser des jougs, il est ici pour les détruire. Parce que ça veut des fois qu'on brise quelque chose, qu'on peut le récupérer. On prend du crésiglou, puis on arrive à recoller le pot. On va voir la fissure un peu, mais il est recollé. Mais Jésus, il ne brise pas les jougs. Il est détruit. Quand tu détruis quelque chose, il est en mille miettes à terre. Essaye pas de le coller, ça ne marchera pas. On le prend, puis on le met dans la poubelle. Il fait la même chose. Il détruit pas les jougs. Il brise, il les éclate à tout jamais. Il détruit à tout jamais les jougs. Alors, c'est cette foi-là que le Seigneur, il veut qu'on exerce. C'est cette vraie foi. La véritable foi, c'est celle biblique. Pas la foi sur qu'est-ce qu'on a. On s'est imaginé que la foi peut être, mais la vraie foi biblique fait des choses, quelque chose de vivant, la foi. La foi, elle va croire du cœur. Une chose qu'elle fait. Elle va parler aussi. La foi parle. La parole de Dieu nous dit, j'ai cru, alors j'ai parlé. Mais la condition, c'est sans douter dans son cœur. C'est là qu'on le manque des fois. C'est là que l'Église, des fois, on se décourage parce qu'on confond. On pense que si on doute dans la tête, qu'on n'aura pas l'exaucement. La parole de Dieu, claire, nous dit, si on ne doute pas dans notre cœur, parce que oui, notre tête va s'en mêler. Oui, notre tête va arriver, puis notre raisonnement, tant qu'on ne l'a pas assez renouvelé avec les principes de la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas assez renouvelé nos émotions, nos sentiments vont s'en mêler. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est sans douter dans notre cœur. Pourvu que le cœur croit, même si la tête doute, on va avoir la réponse pareille. On va avoir l'exaucement, parce que le Seigneur regarde au cœur. Alors, dans Marc 11, je vais vous demander de tourner maintenant. C'est Marc 11, les versets 22 et 23. On est exhorté, on est encouragé, on est demandé même par le Seigneur, ayez foi en Dieu. C'est clair, hein? C'est pas long, là. Ayez foi en Dieu. Une autre version va nous dire, ayez la foi de Dieu. Là, vous allez dire, écoute, là, c'est charrier pas mal. Dieu est Dieu, là. Moi, je suis pas Dieu, je suis pas à son image. Comment est-ce que je peux arriver pour avoir la foi de Dieu? Il a mis sa nature en moi. Il a mis sa nature en vous. Alors, la foi que Jésus exerçait quand il était sur la terre, parce qu'il lui, il exerçait la foi. Il exerçait la foi en son Père. Il n'était pas venu faire sa volonté à lui, il est venu faire la volonté de celui qui l'envoyait. À tout instant, on voit que le Seigneur Jésus était soumis. Il était soumis à son Père, quoi qu'il ait Dieu lui aussi. Il était soumis au Père. Il faisait ce que le Père lui disait de faire. Il disait les paroles que le Père lui disait. Alors, il devait être soumis, puis il devait exercer la foi. Alors, c'est possible pour nous d'avoir la foi de Dieu. Pas juste avoir foi en Dieu, mais d'avoir la foi de Dieu. C'est merveilleux. Alors, on va au verset 22 de Marc 11, 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, « Je vous le dis en vérité. » Quand il dit ça, c'est parce qu'il dit vrai, hein? Prends la peine de dire, « Je vous le dis en vérité. » Si, voyez-vous, c'est conditionnel. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas où? Dans son cœur. Ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit et il le verra s'accomplir. Donc, même si la tête veut s'en mêler, là, si on ne doute pas du cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu nous dit qu'on va le voir s'accomplir. Les choses qu'on dit, on va les voir s'accomplir. Donc, on pourrait dire que la foi, c'est une attitude. C'est vraiment une attitude. Je peux avoir la foi comme je ne peux pas l'avoir, la foi. Ça dépend de moi. Ça dépend de mon attitude. si je veux que les choses changent, je veux qu'il y ait des changements dans ma vie, au niveau de mes finances, au niveau de ma santé, au niveau de mes relations, au niveau des gens avec lesquels je travaille. Si je veux vraiment avoir des changements, c'est une attitude. La foi est une attitude. Elle va changer mes désirs. Combien de nous avons des désirs? On a tous des désirs. Mais il faut que ça aille au-delà d'un désir. Parce qu'on peut rêver toute notre vie. On peut avoir des désirs toute notre vie qui sont des désirs même légitimes et jamais voir ces désirs-là s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi qui est mêlée à ça. C'est simplement un désir. Prenons un jeune, par exemple, qui est assis sur un banc d'école, puis il est encore même au primaire, il termine son primaire. Puis là, il rêve, oh, qu'il aimerait être un médecin. Puis un jour, il va vraiment être un bon spécialiste, il va se promener en Porsche, puis il va vraiment avoir la plus belle maison du quartier. Il peut rêver à ça toute sa vie, mais s'il ne prend pas l'initiative de terminer ses études, d'aller vraiment se spécialiser à un collège des médecins, prendre les démarches nécessaires, il va être rendu à 50 ans, 60 ans, il va encore rêver. Il n'aura pas sa Porsche, je pense, il n'aura pas sa maison. Mais il va rêver qu'il est le meilleur spécialiste au monde. Donc, la vraie foi va changer nos désirs, puis elle va nous donner une espérance qui est nouvelle. Voyez-vous la différence entre un désir et une espérance qui vient de Dieu? Ça change le simple désir. On saisit par la foi la chose qu'on a besoin, la chose qu'on veut. Ça nous donne une espérance nouvelle. Ça nous donne un élan qu'on dit, « Wow! C'est à moi, ça m'appartient, ça! Je vais devenir cette chose-là. Je vais posséder cette chose-là. » Pourquoi? Parce que ça devient un désir qui est changé dans une espérance nouvelle. On voit aussi que la foi, c'est quelque chose qui persévère. On a parlé tout à l'heure de constance, on a parlé de résolution, de principe, mais la foi, c'est quelque chose qui persévère malgré la pression. Parce que finalement, s'il n'y aurait pas de pression, on n'a pas besoin d'exercer la foi. Quand tout va bien, tout est pour le meilleur des mondes, on est en bonne santé, on a le meilleur travail, le meilleur époux, la meilleure femme, les meilleurs enfants, la bonne emploi, tout le monde nous aime, nous porte sur la main. Je dis, pourquoi exercer la foi, là? C'est quand la pression est là. Et si on se souvient, quand notre frère Bill Cooper était ici, il nous a dit que le meilleur météorologue, celui qui annonçait le mieux la météo, le meilleur météorologiste, on dit, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? La tempête va venir. Alors, ils vont venir, les tempêtes de la vie. Les pressions vont venir. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Mais Jésus a dit, on a vaincu, vous avez vaincu le monde. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter des tempêtes, parce qu'on les a vaincus. Mais ils vont venir pareil. La pression vient. C'est là que ça prend une foi qui persévère à travers de la pression. Tournez, s'il vous plaît, avec moi dans Marc. Marc, au chapitre 5. Les versets 35 et 36, on va voir exactement un peu où ça nous parle de cette sorte de pression-là. Marc 5, 35 et 36. On a tous des différentes pressions, mais c'est pas moins de la pression pour autant. Un, ça peut être la pression des finances, c'est une grosse pression. Un autre, c'est la pression dans ses relations. L'autre, peu importe la pression, quand c'est de la pression, c'est de la pression. Puis à un moment donné, le presto, il saute, puis les bines sont au plafond. On ne fait pas attention, j'ai vu ça à un moment donné. Une femme qui, pourtant, elle était habituée, elle servait son presto de façon courante. Elle était fière, elle avait fait un gros beignet dans son presto, puis elle l'avait mal fermé. Quand la vapeur s'est mise là-dedans, boum! Elle m'a donné, elle avait des bines partout. Fait qu'elle dit, la dernière fois que je fais ça au presto, là, c'est fini. Elle a fait le grand ménage pour encore une couple de semaines, certains. Fait qu'il y avait de la pression là, dans ce presto-là. C'était mal fermé. Alors, on voit que les pressions vont venir contre nous. Les tempêtes de la vie vont venir. Et on lit le contexte, comme il parlait encore. Mais on voit dans le contexte, on lit un petit peu plus haut. Vous lirez ça à la maison pour vous-même. Il était question de Jésus qui parlait à la femme qui était atteinte d'une perte de sang. On se souvient de cette femme-là qui est allée à l'encontre de toutes les lois juives. Elle avait vu les médecins, elle avait dépensé tout l'argent qu'elle avait, puis les médecins, aucun ne pouvait l'aider. Sa situation de sa santé dépérissait, elle s'en allait de pire en pire, elle allait mourir. Puis elle disait simplement, si je peux toucher le bord de son vêtement. Alors c'est là quand on dit, il parlait encore, c'est que Jésus s'entretenait avec cette femme-là. Il devait avoir une conversation assez intéressante avec elle, après qu'elle ait été guérie, puis ça, j'imagine que toutes les deux, ils étaient vraiment en grande conversation, toutes les deux. Mais comme ils parlaient encore, survint de chez le chef, on est au verset 35, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. pourquoi importuner davantage le maître? Pas assez de pression sur le pensée. Ta fille est morte. Pas elle mourante, là. Ou bien, bien malade, elle a une grosse fièvre. Lâche tout, puis viens-t'en. Non, non, elle est morte. Lâche-le tranquille, le maître. Il est en train de parler avec quelqu'un. Tu te déranges pour rien. Ta fille est morte. Alors, j'imagine que ce chef, Jairus, ce chef de synagogue-là, c'est comme, wow, ma fille est morte. Mais on voit au verset 36, Jésus qui est sur la scène. Quand lui, il embarque sur la scène, change les choses totalement. On voit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Qu'est-ce que Jésus dit? Il est après lui dire, « Jairus, ne pense pas que les choses vont aller mal. N'aie même pas le sentiment que les choses vont aller mal. » Pourtant, on lui annonçait clairement que sa fille était morte. Jésus est après dire à Jairus, « Jairus, renouvelle tes pensées. » Garde tes pensées en ligne avec ma parole. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ne crains pas. Crois seulement. Voyez-vous? Alors, il y avait le choix. On a vu tout à l'heure que la foi, c'est une attitude. Il aurait pu croiser les bras et dire, ben là, écoute, ils sont ici, ils m'ont dit qu'elle est morte. Bon, au moins, retourner chez nous, on va planifier le funérail. Écoute, on va inviter ma tante une telle, puis ramasser toute la parenté dans ce temps-là. Ça devait être quand même assez long. Les gens vivaient des bonnes distances les uns des autres. Non, il n'a pas préparé les funérailles. Il n'a pas préparé un lunch après, puis dire, ben là, les fleurs, c'est jaloux, Fleuriste Bergeron, puis ordonner mes fleurs, tout ça. Non, non, non. Il a renouvelé son intelligence. Il a cru ce que le maître lui a dit. Ne crains pas, crois seulement. C'est ça que le Seigneur Jésus t'a appris à lui dire. Alors, on voit que d'après les paroles de Jésus, qu'on a le potentiel de choisir. Dieu nous donne le potentiel de choisir. Il a dit à Jairus, crains pas, crois seulement. Alors, il a donné à chacun de nous le potentiel de choisir, mais c'est à nous de développer la capacité. C'est ça qui fait la différence. On peut choisir la foi ou pas. On a vu que c'est une attitude. On peut choisir d'être dans la foi ou pas. On peut croire ou on peut douter. Ça nous regarde. On a le potentiel de faire ça. Mais il faut qu'on développe la capacité pour être capable, quand on entend le maître nous dire, ne crains pas, crois seulement. On va avoir renouvelé notre intelligence et on va entendre sa voix dans notre cœur. Des fois, il nous semble impossible d'atteindre notre but. C'est vrai, hein? On s'est fait des rêves, on s'est bâti des grandes choses, des grands désirs qu'on veut. Ça nous semble impossible là, d'atteindre ce but-là. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut. Même si ça nous semble impossible, parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Parce qu'on demande quelque chose selon sa volonté, la parole de Dieu dit qu'il nous écoute. Et non seulement il nous écoute, mais il nous exauce. Alors, c'est pas à nous d'arriver puis d'oser ça, là, de dire, bien là, j'ai demandé ça, mais ça me semble impossible de l'avoir. C'est pour ça qu'on reste avec des choses qui nous manquent. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut avoir ces choses-là, même si ça nous semble impossible d'atteindre notre but. Alors, il nous faut abandonner. Ce qu'il faut faire, c'est abandonner notre principe à nous de la vie. On s'est fait une façon, on s'est construit une façon selon notre religion, des fois, selon notre arrière-plan, selon la façon qu'on était élevé, éduqué, on s'est barré entre ça. On s'est cloîtré là-dedans. Puis on dit, c'est impossible, je ne peux pas atteindre mon but. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on le peut. Donc, on abandonne notre perspective de la vie à nous. Pourquoi? Pour accepter celle de Jésus. Il faut qu'on demande avec foi, sans douter dans notre cœur. Même si la tête s'en mêle au début, on ne se laisse pas déranger par ça. On ne se laisse pas duper par l'ennemi qui va dire, « Ah oui, mais regarde, tu doutes. » Tu doutes, là? Oui, mais on est capable de dire, oui, mais c'est dans ma tête que je doute. La parole de Dieu me dit, si je ne doute pas dans mon cœur, je vais l'avoir. Alors, on est capable de le faire taire par la foi aussi. Alors, on demande sans douter. On demande, le Seigneur nous dit dans Marc, d'avoir la foi de Dieu, avoir la foi en Dieu. Un autre principe de la foi aussi, c'est de parler à la montagne. Vous savez la petite chanson qui dit là, que le cowboy fait le tour de la montagne, ou c'est la montagne qui fait le tour du cowboy, en tout cas un des deux. Puis on est là, face devant la montagne, tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais là, comment je vais faire? Je fais-tu le tour, je pars par le nord, puis je vais m'en aller dans cette direction-là. Là, comment je vais contourner la montagne? Ou bien je vais-tu passer par-dessus? Elle est immense. Pourtant, il faut que je me rende de l'autre côté. Mon but, il est là. Mon objectif, mon rêve, il est là. Mais il y a cette fameuse montagne-là. Peut-être pas une montagne physique, là. mais ça peut représenter une montagne dans votre vie, une montagne d'épreuves, une montagne de pression. On voit la montagne, on dit comment je fais. On ne parle pas à propos de la montagne, comme un gros escalier, ça allait dangereux, j'ai pas assez de cordes pour grimper ça, d'un coup mon corps me pète en chemin, m'en me ramasse en bas. Non. On ne parle pas à propos de la montagne, on parle à la montagne. La parole de Dieu nous dit, celui qui dit « jette-toi dans la mer », qui ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit croit, il le verra s'accomplir. Alors, on ne parle pas de la montagne, on parle à la montagne. La même chose pour les tempêtes dans nos vies. On se souvient quand Jésus il dormait dans la barque, il était avec ses disciples, et puis s'élève une de ces tempêtes. Puis pourtant, il était avec des hommes connaissant la mer. Il était avec des pêcheurs. Il était habitué aux autres, là, à des grosses vagues. C'était pas la première fois qu'ils voyaient ça. C'était pas leur première fois dans une petite barque. Et pourtant, cette tempête-là était tellement grosse, c'était tellement les flots s'élevaient, ça commençait à remplir la barque. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont réveillé le maître. On n'a pas vu Jésus se réveiller, se frotter les yeux. Ben oui, on donc, vous auriez dû me réveiller avant ça. Vous n'auriez pas dû attendre qu'il commence à faire de l'eau, là, franchement. Écoutez, là, même si c'est Jésus, vous auriez pu me réveiller avant, vous étiez gêné pour rien. Puis tu n'as pas commencé à parler. As-tu vu ça, les éclairs? C'est épouvantable, ça nous aveugle. Il m'a yassé, il m'a yaboué de boucle, comme on dit en québécois. Non, il n'a pas parlé à propos de la tempête. Il a parlé à la tempête, il l'a menacé. Puis il a dit à la tempête, tais-toi, apaise-toi. Puis on a vu tout de suite la tempête s'arrêter. Donc, on ne parle pas à propos de la montagne, on ne parle pas à propos de nos tempêtes, on les grossit. Tantôt, il va y avoir des éclairs, tantôt, il va y avoir de la grêle. Ça part avec une petite pluie juste pour arroser le parterre. Peut-être qu'on a fini de compter ça à quelqu'un, c'est une pluie torrentielle. Ça a tout inondé le sous-sol, puis bon, plus on en met, hein, parce qu'on aime ça, des fois, c'est impressionnant aussi, nos histoires. Fait qu'on en met, peut-être que c'est pas inondé partout, puis les pompiers sont pas venus, puis il y a des secouristes. C'est pas impressionnant. Fait que plus on parle de la tempête, plus elle est grosse, la tempête. Donc, on parle à la tempête. Et puis, on croit que ce qu'on dit s'accomplit. Alors, si on veut des résultats, il faut le confesser de notre bouche, il faut le croire dans notre cœur que la chose qu'on dit va s'accomplir. C'est peut-être le cas de quelques-uns de vous ce matin ici. Vos rêves, vos buts semblent que c'est envolé en fumée. On dit, pourtant, j'avais planifié des belles choses pour ma vie. Pourtant, j'ai accepté le Seigneur, ça fait 10, 12 ans. Il me semble que je regardais toute ma vie, là, puis j'avais juste des beaux plans. Il me semble que tout était si beau. J'étais pour marier la plus belle fille, puis là, tout, j'avais une bonne job, tout allait si bien. D'un coup, on voit que tous nos buts, tous nos rêves sont partis en fumée. Alors, si c'est votre cas ce matin, sachez que le Seigneur est ici. Il veut vous bénir. Il veut vous donner les désirs de votre cœur. Mais il faut activer votre foi. C'est quelque chose de personnel. Je ne peux pas le faire pour vous. Si vous avez suffisamment de foi, vous avez suffisamment de foi pour recevoir. Des fois, on pense, oh, mais comment tu fais, ça va me prendre, on apprend ça un peu, gros, pas mal, beaucoup. On essaie de mesurer ça. On met ça dans le tasse à mesurer, puis on va voir, là, ça ne marche pas comme ça. Si on a assez de foi pour le demander, on a assez de foi pour recevoir notre requête aussi. Alors, c'est le message de ce matin. Vraiment, que si on veut être agréable à Dieu, si on veut vraiment faire plaisir au Seigneur, puis je le crois que c'est le désir de vous tous ici ce matin. Parce que le Seigneur nous aime d'un amour inlassable. Il nous aime avec une tendresse, avec une compassion qu'on veut répondre à cet amour-là. On veut lui faire plaisir en retour. On veut lui être agréable. Mais la seule façon de lui être agréable, comme j'ai dit au début, c'est par la foi. Parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Alors, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Et on va faire un appel au salut, comme on fait tous les dimanches. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit... Mais moi, je ne le connais pas, le Seigneur. Je ne suis pas certaine de ma place. C'est pas une religion. On ne parle pas à propos d'une religion. On ne parle pas d'aller à la messe. On ne parle pas de faire des bonnes œuvres. On ne parle pas d'avoir donné des sous, de faire du bien. Quoique toutes ces choses-là font partie de la vraie religion. Mais si je parle d'une relation, c'est quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain qu'en mourant. Parce qu'on ne sait pas, je ne suis pas un prophète de malheur, je ne suis pas après vous prophétiser des choses, mais des fois, ça arrive plus vite qu'on le pense, des fois qu'on, bon, pour une raison quelconque, une maladie, n'importe quoi, puis on décède. C'est quelqu'un qui n'est pas certain ici ce matin de sa place, qui n'est pas certain qu'en mourant, s'en va auprès du Seigneur, si vous n'êtes pas certain, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est certain de sa place, quelqu'un qui est né de nouveau le sait. Il y a un témoignage, parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Alors, s'il y a un doute, c'est parce qu'on n'est pas né de nouveau. Alors, si quelqu'un qui se trouve dans cet état-là ce matin, mais je vous dis, c'est votre matin. C'est votre matin, vous n'êtes pas venu ici pour rien ce matin. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, mais qui désire connaître le Seigneur Jésus, qui désire avoir cette relation personnelle, de faire de Jésus le maître de votre vie, le Seigneur et sauveur de votre vie. Je vous demanderai de lever votre main, on va prier avec vous. On va vous conduire dans une prière qui va vous donner l'assurance de votre salut. Parce que quelqu'un comme ça ce matin, les yeux sont tous fermés. On n'est pas des spectateurs ici, on est tous ici dans le même but, de voir le Seigneur élevé ce matin, le voir glorifié, le voir faire son œuvre parmi nous ce matin. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui désire le connaître ce matin de façon personnelle, levez votre main et on va prier avec vous. Sinon, si on est tous des enfants de Dieu, il y a pareil un appel qui peut se faire, un appel à la consécration. Des fois, vous dites, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mes buts, mes rêves sont toutes partis. J'avais des belles choses, pourtant le Seigneur avait placé des désirs dans ma vie. C'est tout annulé. On dirait qu'il n'y a plus rien qui va pour moi. Il n'y a plus rien qui marche pour moi. Vous pouvez vous avancer si vous avez besoin de prière. On va prier pour vous. Puis vous allez utiliser votre foi. Je ne peux pas avoir la foi pour vous. Tout ce que je peux faire, c'est de mettre en accord avec vous que le Seigneur va faire le changement nécessaire, va changer votre attitude de non-croyance, va vous donner une attitude que vous allez croire dans sa bonté, dans son amour, dans son immensité, dans sa gratuité. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de prière ce matin, soit pour le baptême du Saint-Esprit, soit pour la guérison de vos corps. Il peut arriver qu'il y a des gens qui sont malades, ça fait longtemps que j'ai une telle maladie, je m'ai fait prier pour souvent, puis je n'ai pas de résultat, il ne se passe rien. Peut-être qu'on n'a pas appliqué la foi nécessaire pour être délivré. Mais ce n'est pas un message de condamnation. Appliquez, prenez la foi que vous avez. On ne mesure pas la foi, dis-je, j'en ai pas assez pour m'avancer. Prenez la foi que vous avez, puis on travaille avec ça. Le Seigneur remet en vous une mesure de foi. Si vous avez suffisamment de foi de demander au Seigneur Jésus, délivre-moi, Seigneur, arrange les choses dans ma vie que je ne peux pas arranger. Seigneur, les montagnes qui sont dans ma vie, les tempêtes qui sont dans ma vie, Seigneur, je veux que ça cesse dans le nom de Jésus. Avancez-vous. On va se mettre en accord avec vous que la délivrance va venir, soit pour votre corps physique, soit pour votre état, de façon, vous avez des émotions qui sont en branle, vous ne savez plus. Peu importe la raison laquelle vous avez besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit, une nouvelle consécration, Seigneur. Je n'avais pas compris la foi comme c'était vraiment la vraie foi biblique. C'est pour ça que je n'ai pas de résultat. Je m'aperçois que j'attendais que le Seigneur le fasse pour moi. J'attendais qu'on prie pour moi puis qu'on exerce la foi. Tout ce que moi je vais faire, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour vous et avec vous en se mettant d'accord et avec votre foi. Le Seigneur va faire de grandes choses parce qu'il est au milieu de nous ce matin. Alors, ceux qui veulent s'avancer, il y en a déjà, il y en a d'autres. Gênez-vous pas, venez ici. L'onction du Seigneur est présente pour détruire les jougs à tout jamais. Si vous avez gardé captif pendant trop longtemps, le Seigneur veut le briser ce matin. D'un coup sec comme ça, par son onction. Alors, si on peut peut-être avoir la musique, avoir ceux qui nous apportent la louange, si je vous demande simplement de ne pas regarder à moi, de regarder au Seigneur Jésus, fermez vos yeux. Vous êtes là avec une attitude de recevoir, attendez-vous de recevoir une touche du Seigneur. Que ce soit la guérison, le baptême du Saint-Esprit, peu importe, le Seigneur est ici. Puis il délivre encore aujourd'hui, parce que mon Rédempteur vit. Alléluia. Alléluia.